VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Tanzanie, ouverture d'une nouvelle session des pourparlers inter-burundais de sortie de crise. Ce mardi à Arusha, dans le nord du pays, en l'absence de l'opposition burundaise en exil. Objectif de cette session à huis clos, aboutir à la signature d'un accord le 8 décembre en présence des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, selon le médiateur dans la crise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Les participants sont censés négocier autour de 8 points, incluant l'engagement à mettre fin à toutes les formes de violence, l'application de l'accord de paix d'Arusha qui a ouvert la voie à la fin de la guerre civile au Burundi, et la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale. Bien que ces discussions sont présentées comme totalement inclusives par l'équipe du facilitateur, le Sénared, la plateforme regroupant l'opposition en exil, est absent de la réunion. Les opposants en exil boycottent la session parce que le gouvernement burundais aurait obtenu de la médiation l'exclusion de nombreux membres du Sénared des négociations en cours. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a été investi ce mardi pour un second et dernier mandat à la tête d'un pays divisé. À Nairobi, le contraste était saisissant entre la cérémonie en grande pompe organisée pour la prestation de serment de M. Kenyatta en présence d'une dizaine de chefs d'État africains et les jets de gaz lacrymogènes en direction du chef de file de l'opposition Raila Odinga, qui a promis à quelques centaines de partisans de prêter serment comme président légitime le 12 décembre, jour de l'indépendance du Kenya. Au moins un manifestant a été tué lors de la dispersion des supporters de l'opposition par la police. Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a donné ce mardi un ultimatum de 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays. À l'expiration de ce délai, les autorités procéderont à l'arrestation de tous ceux qui n'ont pas respecté cette directive et les traduiront devant la justice, a souligné le chef de l'État dans un communiqué. Surnommé le crocodile, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a succédé vendredi dernier à Robert Mugabe, 93 ans, qui a démissionné après un coup de force de l'armée, laissant derrière lui un pays ruiné. Plus de 90% de la population zimbabwéenne est officiellement au chômage et ne survit que de débrouille et d'emplois informels.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, 4 personnes ont été tuées dans l'est du pays lors d'une attaque dans la nuit de lundi à mardi attribuée à la milice congolaise des Mai Mai Nyatura, dont les membres recrutent dans la communauté Hutu congolaise. Un groupe de bandits armés a attaqué la localité de Numbi, faisant 4 morts, dont un militaire, a déclaré à l'AFP William Sebrikanda, chef de cette localité minière de la province du Sud Kivu, riche en coltan. 5 personnes ont également été blessées, a-t-il ajouté. Et toujours en RDC, l'Assemblée nationale procède depuis lundi à l'examen d'un projet de révision de la loi électorale. Une étape importante dans le processus vers les élections pilotées par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Abdourahman Dia.
Le projet de loi doit être adopté d'ici vendredi et promulgué le 15 décembre plus tard selon le calendrier. Plusieurs élections, dont le scrutin présidentiel, doivent se tenir le 23 décembre 2018. Le texte prévoit un nouveau seuil légal de représentativité aux législatives pour décourager les candidatures fantaisistes et favoriser des regroupements des partis politiques, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Ramazani Chadari estime qu'il y a 703 formations politiques dans le pays. Hier, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé au président Kabila d'annoncer clairement sa non-participation à la prochaine présidentielle. Pour le moment, M. Kabila n'a fait aucune déclaration sur ses intentions.
Burkina Faso, lors d'un discours à l'université de Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron a affirmé ce mardi que les crimes de la colonisation européenne sont incontestables. Il a annoncé son intention de proposer une initiative euro-africaine pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs qui exploitent les migrants subsahariens dont certains sont réduits en esclavage en Libye. Le chef de l'État français a qualifié la vente de migrants comme esclaves de crimes contre l'humanité. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
La chronique de l'économie avec Eric Manirakiza. Le Burkina Faso se tourne vers les énergies renouvelables pour combler le déficit énergétique. Il s'est donc doté de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest, construite sur le site d'Ozaktouli, au sud-ouest d'Ouagadougou. Cet investissement a coûté 47,5 millions d'euros et la production totale devra atteindre 50 mégawatts. Le kilowattheure coûtera environ 45 francs CFA, trois fois moins cher que le coût actuel de 145 francs CFA. Deux centrales solaires sont prévues à Koudougou de 20 MW et à Kaya de 10 MW. D'ici à 2030, le Burkina envisage de couvrir 30% de ses besoins en électricité avec le solaire. Au Niger, la loi de finances 2018 supprime les taxes sur les appels internationaux. Cette redevance représente environ une vingtaine de milliards de francs CFA par an. En retour, les compagnies de télécom doivent investir davantage pour améliorer la couverture et la qualité de leurs services. En 2016, le Niger comptait près de 8 millions d'abonnés aux services de téléphonie mobile pour une population de 19 millions d'habitants. Enfin, le Canada et la Chine veulent faire de 2018 l'année du tourisme Canada-Chine. Les échanges bilatéraux ont atteint plus de 85 milliards de dollars canadiens en 2016.
Avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.